Bon, voilà, hein, ce matin, on est en famille et on va être dans la suite des séries de prédications sur l'Épître aux Hébreux. Et donc, on en est au chapitre 12. Alors, on va simplement lire les 17 premiers versets. Et puis, voilà, je vais essayer de commenter un peu cette série de versets et puis d'avoir un peu des explications pratiques. Alors, je n'ai pas salué tout le monde, je salue aussi ceux qui sont en vidéo, et soyez patients et indulgents avec moi. Mais c'est un texte, franchement, c'est un texte magnifique. Hébreux 12, on ne pouvait pas mieux tomber. Allez, je vais faire la lecture. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions notre Père terrestre pour nous corriger et nous le respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Notre Père nous corrigeait pour un temps limité, selon ses idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. C'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Verset 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous, qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir en héritage la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen de revenir en arrière, bien qu'il ait cherché en pleurant. Voilà, jusqu'ici. Amen. Alors, je ne sais pas vous, si on peut remettre le texte au début, comme ça va m'aider. Moi, quand j'ai relu ce texte-là ce matin, je me suis dit, mais on est dans un stade avec des coureurs dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à vous savez, à des épreuves olympiques. J'ai pensé à Karen Ah ben, elle est là. Je ne t'avais pas vu. C'est toi qui pourrais faire le message ce matin. Parce que quand tu cours avec les sauts de haie, il y a des obstacles. Et voilà, nous sommes dans un grand stade rempli de témoins. Ces témoins, ils sont dans le chapitre 11. C'est tous ces héros de la foi que Dieu parle. Et voilà, nous, on n'est pas... j'ai ce terme de spectateur qui vient. On n'est pas des spectateurs passifs, mais on veut être des spectateurs, des témoins vivants aussi. Vous voyez ? Et donc, ces témoins, ces héros de la foi, pour nous, ce sont des exemples vivants pour nous. Et c'est ce que Paul... Pardon, ce n'est pas Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais peut-être Apollos. Voilà, quand l'auteur, en tout cas, qui a écrit cet épître-là, il a ça dans son arrière-pensée. Donc, dans une course, et une course d'obstacles, eh bien, il y a des obstacles. Et Paul, pardon, je vais le dire toute la matinée, je vais dire Paul, mais n'en tenez pas compte. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Si tu peux mettre le verset après. Voilà, il parle de fardeaux qui sont sur notre course. Voilà, et les fardeaux ne sont pas forcément des choses mauvaises. Voilà, elles sont inutiles peut-être, mais il y a ce péché qui est là et qui nous piège facilement. Et donc, l'auteur nous dit, bien, gardez les yeux fixés sur Jésus. Voilà, nous, notre modèle, c'est Jésus, ça n'est pas un autre. Parce que Jésus, il est allé jusqu'au bout, il a souffert sur la croix, sans abandonner dans la course, il est allé jusqu'au bout, et il regardait à cette joie future. C'était quoi cette joie future de Jésus ? Je vous laisse parler ce matin, vous allez participer. Quelle était la joie de Jésus ? Ouais, et d'avoir une épouse, exactement. Il avait en vue cette joie qui lui était réservée, cette joie de nous racheter et de que nous puissions nous présenter à lui d'une manière sainte. Et ça, c'est pour ça qu'il a tenu jusqu'au bout. Et ça, c'est un exemple pour nous aussi, parce que pour nous aussi, peut-être que dans nos vies, on doit faire un tri spirituel. Qu'est-ce qu'on doit abandonner ? Qu'est-ce qui nous ralentit dans notre course ? Aujourd'hui, je pose la question, les réseaux sociaux passent tellement de temps maintenant dans les réseaux à être en lien avec les autres, en lien avec ça, etc., etc. Et ça peut être un fardeau. Notre ralentissement, Dalila, tu as dit quelque chose. Les jeux, ouais. Les jeux d'argent, tout ce qui est addiction, évidemment. Les relations toxiques aussi, je pensais à ça ce matin. Voilà, toutes ces mauvaises habitudes que nous avons dans nos vies qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus, eh bien, peut-être on peut commencer à se dire, je vais m'en débarrasser d'une manière consciente. Comment fixer les regards sur Jésus ? Comment vous faites ? Il y a plein de... Merci pour les témoignages. C'est beau de voir l'œuvre de Dieu à travers une vie. Et on voit comment Dieu vous a amené, comment Dieu... vous avez évité tous ces obstacles aussi. C'est des témoignages vivants de notre vie avec le Seigneur. Comment vous faites pour fixer ? Qu'est-ce qui se passe quand vous fixez les regards sur Jésus ? Allez, participatif ce matin. L'écoute de quoi ? De tes voisins ? De la parole de Dieu. Donc, une application pratique pour garder les yeux fixés sur Jésus, peut-être tous les jours, de lire un passage de la Bible. Autre chose ? Parler au Seigneur, prier, l'écouter. Alors, on pourrait faire tout un message sur l'écoute. Hein. Le laisser vivre en nous, voilà. Méditer, aussi, j'avais noté. Et pardon ? S'entourer d'autres, sur le conseil d'autres chrétiens qui vivent cette vie-là aussi. Voilà. Donc, c'est vous qui faites le message. C'est très bien. En fait, moins on regarde nos problèmes aussi, en fait, c'est l'inverse. Plus on garde les yeux fixés sur Jésus et moins on regarde nos problèmes. Voilà, donc, pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Et oui, on peut être découragé dans cette course, mais on peut penser à Jésus qui, lui, a eu la plus grande lutte parce qu'en étant parfait, en étant saint, en étant pur, il a dû affronter de plein fouet ce péché que nous portons, hein, de la part des hommes pécheurs. Il a... Alors, à partir du verset 4, si tu peux le mettre, c'est celui-là, le verset 4. Je n'ai pas les versets dessus, mais ce n'est pas grave. On va passer à une autre... Voilà, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Mon fils ne prend pas la légère la coercition du Seigneur. Voilà, on va passer dans cette discipline de la vie chrétienne. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il y a un changement de perspective. Pour courir, eh bien peut-être qu'on a un entraîneur. Je ne sais pas, Karen, si toi, tu avais un entraîneur, quelqu'un qui te disait « Oh là là, il faut que tu cours comme ça, prends tes appuis, etc. » Et c'est exactement ce que Apollos, on va dire, allez, ce sera plus simple, ce que l'auteur dit. Ben, Dieu nous corrige comme un père. Ça veut dire que les difficultés que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours, dans notre vie chrétienne, ce sont des difficultés qui sont là pour nous apprendre. Elles ne sont pas inutiles. Elles nous ralentissent, mais ces difficultés, elles nous permettent d'apprendre. Parce que Dieu, il agit comme un père pour nous. C'est-à-dire qu'il nous corrige, il nous forme avec cette correction. Et j'ai envie de vous dire, c'est encore plus que ça, c'est qu'il nous transforme. Et merci Martine de ton témoignage, parce que c'est vraiment ça ce que le Seigneur veut faire avec nous. Il veut nous transformer de l'intérieur. Alors nous, on voit la correction comme une punition, comme une condamnation, comme quelque chose de lourd. Mais la discipline, ayons en tête que la discipline, elle a pour but notre transformation intérieure. C'est chouette ça, non ? Vous savez, quand on est devant une épreuve, « Seigneur, mais pourquoi moi ? Mais j'ai été bien, moi, toute ma vie, je fais le bien, et pourquoi ? Pourquoi c'est moi ?» Et plutôt que de penser comme ça, dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ?» Alors c'est sûr, hein, on cherche, surtout dans notre société aujourd'hui, on cherche notre confort à tout prix, et on cherche notre confort dans notre vie aussi. Et je crois que face à une difficulté, eh bien, il faut qu'on ait un peu plus de patience, d'humilité, et surtout d'essayer d'identifier ce que Dieu veut développer en nous. Quand on a une épreuve, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce que Dieu... Essayons d'identifier ce que Dieu veut faire. On a parlé de l'écoute. Eh bien, c'est exactement ça. Dans l'épreuve, on peut écouter Dieu. Et Dieu nous parle. On va un peu plus loin dans le verset. Tu peux mettre le verset suivant. Supportez vos souffrances. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Elles servent à vous corriger. C'est en fils de Dieu que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas ? Donc ici, il explique bien que Dieu nous corrige. Alors, un père, selon la chair, nos parents nous ont corrigés selon leurs idées, comme on l'a lu, quelquefois bonnes et quelquefois mauvaises. Mais notre Papa du ciel, il nous corrige de manière parfaite, parce qu'il nous connaît. Et si lui, qui a la visée parfaite sur nous, et s'il y en a un qui peut nous corriger, c'est vraiment lui. Le Papa du terrestre, il nous corrige pour une période limitée, mais ayant ça en tête que notre Père céleste, il nous corrige pour l'éternité. C'est tout à fait différent dans la conception. Ah ben voilà, pour un temps limité. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais une cause de tristesse. Et par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste, vécue dans la paix, et relevez vos mains qui faiblissent, raffermissez vos genoux qui faiblissent. Mais oui, parce qu'on peut être fatigué des fois. Il peut y avoir une fatigue dans notre course, on a envie d'abandonner. L'abandon, il est dangereux. Vous rappelez dans au chapitre 2, « Afin que vous ne partiez pas à la dérive dans votre foi », eh bien, quand nous sommes fatigués, quand on est découragés, c'est là que petit à petit, on part à l'abandon. Donc, tous les jours, faire un petit pas. Tous les jours, faire un petit pas. Prière, lecture et action aussi, hein, évidemment. Merci Priscille, il faut s'entourer des bonnes personnes, des gens qui nous encouragent, pas des gens qui nous font tomber, qui nous font culpabiliser, pas ceux qui nous enfoncent. Mais la communion fraternelle, elle est importante dans notre course. Alors il y a un verset, je crois que s'il est juste après, rendez droit vos sentiers. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Et en fait, dans la perspective de l'auteur, c'est éviter les zones où on sait qu'on va tomber, quoi. Les zones de tentation, on va les mettre de côté et on va rendre droit nos sentiers. C'est-à-dire qu'on reste fixé sur Jésus et pas autre chose. Donc, pour nous, une application pratique, c'est de mettre des limites dans notre vie. Alors, c'est facile à dire, hein, c'est pas facile à faire. Mais mettre des limites dans notre vie qui vont nous permettre d'en avoir qu'une seule visée, si je puis dire. Organiser notre vie de manière à ce que nous n'ayons qu'une seule visée. Verset 14. Rechercher la paix, faites-vous des pistes droites, voilà. Où c'est. Alors, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde, pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. D'autres versions, il dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, on pourrait se dire, pourquoi la sanctification? Parce que la sanctification, c'est un retour constant à la croix de Jésus. Donc, si on n'a pas vécu cette transformation, cet abandon à la croix de nous-mêmes, pour que le Seigneur vienne vivre à notre place, et ce n'est pas un remplacement, mais je le dis souvent, c'est une vie de collaboration. Le Seigneur nous respecte profondément dans ce que nous sommes et il vient vivre en nous pour que nous ayons un compagnonnage. J'arrive à le dire. Mais cette vie, cette course, c'est pas juste « Ah ben, ça va arriver tout seul ». C'est pas « Ça va arriver tout seul, le Seigneur va me donner son esprit et puis tout va se passer comme ça, comme sur des roulettes ». Non, le Seigneur, nous devons être actifs dans cette sanctification. Ce n'est pas automatique, mais c'est un effort volontaire. Ce qui veut dire que la sainteté n'est pas optionnelle. Je regarde mes notes, excusez-moi. Alors, je ne sais pas, au niveau pratique, comment on pourrait décliner ça? Vous savez que, enfin, moi j'ai un truc à cœur, c'est que l'Église, c'est... Vous savez, tellement de gens qui nous disent, oh, moi je ne vais plus à l'Église. Je ne vais pas à l'Église, parce que d'abord, les gens ils sont compliqués, il y en a un qui me gonfle. C'est souvent on entend ça. Moi, je vais pas à l'église parce que j'ai pas, je suis pas reconnu. Ça, on entend souvent. Est-ce qu'on vient à l'église pour être reconnu? Non. On vient à l'église pour reconnaître le Seigneur, tous ensemble. Mais les relations dans l'église, c'est hyper important. La sainteté personnelle. Elle se décline aussi sur une sainteté communautaire. C'est-à-dire que dans nos relations, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que, bien souvent, il y en a qui préfèrent ne plus venir, parce que ce n'est pas facile de vivre la communion fraternelle d'une manière qui nous convienne. Mais ça veut dire, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut réparer nos relations. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vous gonfle, il faut aller lui dire. Hein. C'est aussi simple que ça. Et peut-être que c'est vous qui le gonflez, ouais. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Hein. On voit la poutre dans l'œil du voisin, mais pas dans la sienne. Mais on a un outil formidable, c'est le pardon. Il y a pas... On peut tous tomber, on peut tous faire une bêtise, on peut facilement blesser quelqu'un. C'est très facile. Donc, pardon. Pardonne et demande pardon. Et arrêtons tous ces conflits qui nous bouffent, quoi. Enfin, je ne parle pas pour ici, forcément, parce que nous sommes une église parfaite pour ceux qui viennent. Voilà, donc il faut prendre la sainteté au sérieux. Voilà, c'est ce que je veux dire ici, c'est ce que l'auteur... Il dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Faites tous vos efforts. C'est-à-dire qu'il faut vraiment identifier là où est-ce que j'ai pu blesser quelqu'un. Donc, identifions ces péchés de relation. Identifions nos péchés à nous aussi. Quand on est face à une souffrance dans notre course. Et puis, ben, choisis la paix. Choisis la paix plutôt que choisir tes propres intérêts à toi. C'est comme ça que commencent les guerres. On le voit dans notre monde. Chacun cherche son intérêt. Et non, le Seigneur, il nous dit, garde les yeux fixés sur moi et je vais transformer ta vision de la société et de tes relations. En clair, ça veut dire que t'as pas besoin d'avoir raison tout le temps. T'as pas besoin de gagner toutes les discussions. Vous savez, des fois. Un peu plus loin, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Alors ça, faut pas me le dire deux fois. Parce que la grâce de Dieu, c'est essentiel dans notre vie. Quand dans notre vie, ça va pas, la grâce de Dieu, elle agit. Il y a la grâce qui nous permet de recevoir le pardon de Dieu pour nos péchés, mais il y a aussi cette grâce vécue au quotidien où Dieu, il vient et il nous fait du bien, et il nous renouvelle, et il nous transforme, et il nous nourrit. Et ça, il ne faut pas rester spectateur de ça. Ça, il faut vraiment le vivre. Tu as de l'amertume? Eh bien, rejette. Remets-toi avec Dieu, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Tu as le cœur qui est dur, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Parce que racine d'amertume, j'avais noté ça, ça produit beaucoup de choses en nous. C'est les racines d'amertume, et il dit bien la racine, parce que ça produit une plante en nous qui est vraiment mauvaise. Donc, parle aux autres, Soigne tes relations avec les autres, prie, pardonne. Traite l'amertume, si tu en as, si tu as des racines d'amertume en toi, vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, etc., vis-à-vis de moi, par exemple. Venez me voir et puis on va grandir ensemble. Et puis, le Seigneur, il protège notre cœur. Voilà. Parce qu'il est une nourriture pour nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et ce terme parole, c'est vraiment ce terme, c'est pour cette nourriture personnelle que le Seigneur vient nous donner. Donc, qu'est-ce qui nous nourrit ? C'est la parole, on l'a dit, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, une vie transformée, cette foi qui nous transforme. Et je vais conclure, peut-être avec l'histoire d'Ésaü, versets 16 et 17. Personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes. J'aime bien le « ou ». Alors, je ne suis pas allé voir dans le grec, mais c'est presque pareil. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression en le lisant qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes. C'est la même chose. Parce que si on méprise les choses saintes, on va rentrer dans l'idolâtrie. Et donc, l'idolâtrie, elle nous amène direct à l'immoralité. Et il donne un exemple, comme Ésaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Et puis, il parle de la bénédiction de son père. Je n'ai pas relu le texte, mais ça fait bizarre quand vous lisez dans le livre de la Genèse l'histoire d'Ésaü et Jacob. C'est que, bon, on connaît l'histoire, hein, il vend son droit d'aînesse, il y a une tromperie, etc. Et puis après, un peu plus loin dans le texte, on voit Jacob s'enfuit, vous vous rappelez. Et puis, je crois, bien après, plusieurs années, 14 ans après, je crois, ou 20 ans après, je ne sais plus, il retourne, il vient revoir. Mais Jacob, il s'est enfui sans l'héritage. Il s'est enfui sans l'héritage, Jacob. Qui a gardé l'héritage ? C'est Ésaü. Et pourtant, il avait vendu son droit d'aînesse. Mais il y a autre chose derrière. Il y a autre chose. Lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, la bénédiction, il y avait les choses matérielles, évidemment, et il y avait aussi la bénédiction de Dieu. Et vous savez que depuis le livre de la Genèse, de la Genèse et de la Jeunesse, première fois que je fais. Quand Adam va pécher, quand l'humain va pécher, Dieu il bénit la femme. Il explique qu'il y aura une postérité depuis la femme jusqu'à Jésus-Christ. D'accord ? Parce que la femme, elle va enfanter. Et ensuite, elle va, par sa postérité, la descendance de la femme, c'est par elle que va venir le Messie. Qui va venir Jésus. Et donc, il y a une lignée. Il y a une lignée jusqu'au Messie. Et qu'est-ce qu'il cherchait, Jacob ? Ce n'était pas les biens matériels. Ce qu'il cherchait, c'était être dans la lignée. C'était ça, la bénédiction, d'être dans la lignée du Messie. Et j'aime bien ça, parce que il ne faut pas négliger. Nous, grâce à Jésus-Christ, on n'est plus avant dans la lignée, mais on est dans la postérité, on va dire qu'on est après, et on est encore plus béni, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est en Christ, on est dedans. Et ça, il ne faut pas le louper. Il ne faut pas le louper. Si vous n'avez pas fait ce pas avec le Seigneur, mes amis, il faut y aller, hein, il faut le faire. Parce que c'est de là d'où vient la bénédiction. Et ce n'est pas une bénédiction pour avoir une belle maison et un château, etc. C'est une bénédiction qui va être à l'intérieur de nos vies. Vous allez avoir cette présence de Dieu en vous, nous avons cette présence de Dieu en nous qui nous donne la paix, qui nous donne cette joie profonde, qui nous permet de vivre quelles que soient les circonstances. Et il y a, à un moment donné, c'est un peu prophétique tout ça, hein. Il a été rejeté car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait. On est dans d'autres circonstances, mais pour nous, nous pouvons toujours revenir à Dieu et revenir au Seigneur. Et s'il y a un péché qui nous a éloignés de Dieu, si vous n'êtes pas encore pris cette décision de vivre avec Dieu, allez-y. Donc, prendre au sérieux les choses de Dieu. Pas mépriser notre foi, notre relation avec Dieu et le plan que Dieu il a pour nous. Voilà, j'espère que je vous ai apporté ce qu'il fallait. Donc, vous avez compris que ce texte, ça nous engage à vivre une vie sainte, engagée avec Dieu. Amen. Le Seigneur va continuer à nous transformer.